Radio Campus Angers. L'Afterwork avec Olivier Piat.
Et oui, les amis, bonjour et bienvenue à l'Afterwork de Radio Campus Angers. Cette semaine encore, à l'aventure de la rencontre, à la fois curieux et au service de ces personnes et personnages qui font le territoire angevin plus beau, plus créatif, plus inventif, plus pluriel, quoi, en fait. La littérature est au rendez-vous de cet Afterwork. Elle vient de temps en temps nous parler de ses nouveautés, de temps en temps, parce qu'autrement, si elle venait à chaque sortie, elle serait des nôtres chaque semaine. C'est vrai que ce serait chez Delphine, ici. Autrice prolifique Delphine Bilien, bonjour Delphine.
Bonjour.
Et bienvenue, dernier sorti, Le Prix des Apparences. C'est un polar, on pitch ensemble tout à l'heure. Lui aussi écrit, alors mes choses étranges, il écrit en se filmant et en faisant intervenir des lecteurs au travers un écran commun.
Oh là.
Mais si comme moi vous ne saviez pas ce qu'est une chaîne Twitch, c'est pas grave.
On va le savoir.
Et si comme moi vous êtes des inconnus du stream, c'est pas grave. Okay. On a cet auteur à nos côtés, on va lui demander. Bienvenue Axel Douglas.
Merci, bonjour.
Plutôt dans des univers SF, fantasy, le dernier paru, le tome 4 des épées célestes. Pour agrémenter ce rendez-vous, je suis venu avec des amis, avec des copains. Nous, ce n'est pas par un écran interposé, hein, plutôt une version un peu plus ancienne. On pourrait dire par Minitel, plutôt que Google Chrome. C'est le retour du maître à bord.
Oh là là.
Le maître du vaisseau, monsieur Jérôme Rey. Bienvenue Jérôme.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Il est à nos côtés, encyclopédie vivante du rock and folk, qui a toujours sa place à la radio. C'est le Michel Drucker de Nashville. Le diable de Tasmanie se cache parfois dans ce trublion. Le suivant, à ma droite, le comédien un jour, comédien toujours, son plus beau rôle, c'est celui de chroniqueur le plus titré de Campus Angers. Ça n'a pas de sens, mais je trouvais ça un petit peu classe pour toi, mon Pascalou.
J'ai rien compris, mais c'est
Pascal vachement Boncier, bienvenue bien.
Et surtout que je suis arrivé sans chronique.
Oui,
bah
c'est
voilà,
pas grave.
Chroniqueur sans chronique.
C'est encore plus burlesque.
Mais c'est parce que j'ai lu, voilà, à la place.
Le prix des apparences.
Et je vais vous en parler.
La réalisation est assurée.
Sans rien dévoiler.
Par l'artiste multicarte, échappé des griffes de la SNCF. Emma Schaff, bonjour Emma.
Bonjour tout le monde.
Voilà, bienvenue. Et puis bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. C'est la 10e saison de l'Afterwork et le bonheur intact de vous retrouver depuis 287 épisodes. Oh, 287.
C'est beau. Sur Radio Campus Angers, 103 FM, internet, podcast, radiocampusangers.com.
Bien, on va donc parler littérature. Peut-être faut-il commencer par un lexique pour cette émission. Axel, qu'est-ce que l'on est susceptible de ne pas connaître comme terme? Peut-être des anglicismes, des abréviations. Je sais pas, nous, on va passer pour des couillons en fait. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas.
Assumé total.
J'ai été voir ton travail.
Okay.
Et ce qui m'a très surpris, c'est ce moment où tu te mets à écrire en te filmant, et des gens interviennent de l'autre côté.
Tout à fait. Alors,
c'est pas seulement ton travail, mais c'est ce que je voulais explorer aussi avec toi.
Oui,
si
c'est,
tu veux bien nous en parler.
C'est en fait un autre média supplémentaire pour se faire connaître.
Hein,
de toute façon, hein. Donc Twitch, c'est une plateforme de streaming à la base qui est plutôt utilisée pour du gaming, on va dire ça comme ça, pour du jeu. En fait, les gens se filment en faisant du jeu, de l'art. Il y a beaucoup de choses hein, aujourd'hui.
C'est
maintenant
pas, c'est pas seulement on joue, toi et moi, si on veut jouer en ligne, on est chacun chez nous avec notre ordi.
C'est ça.
C'est
ça peut être ça,
mais
par
en
exemple.
En plus, tu filmes et il y a des gens qui ne jouent pas, qui regardent.
C'est ça, voilà, exactement. Il y a beaucoup de demandeurs aujourd'hui de ce genre de format. Et donc, du coup, moi, je me suis dit que j'allais l'adapter en fonction de mes compétences en tout cas, et de ma passion.
Ouais, ouais.
Donc, je me suis dit pourquoi pas écrire avec un public qui éventuellement vient influencer le parcours du héros dans l'œuvre.
Bon, c'est dingue, hein, parce qu'on connaissait les bouquins où suivant à la fin du chapitre, on peut choisir où on peut aller.
Ouais, donc vous êtes le héros.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est encore différent. Et pour revenir juste au gaming, le fait de jouer, que des gens nous regardent jouer sans eux-mêmes jouer, je ne sais pas si je suis très clair, qu'est-ce qui fait qu'on est un gamer suivi? Parce qu'on est drôle, parce qu'on est très fort, parce que... Bon, pourquoi, en fait?
Il y a une question, je pense, de chance, déjà, pour être connu. Parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont connus aujourd'hui, dans le gaming notamment, qui ont commencé sur d'autres plateformes et qui sont aujourd'hui très suivis sur Twitch. Et après, sinon, pour quelqu'un qui est lambda, bah, oui, il y a une grande chance. Des jeux peut-être un peu plus connus, ceux qui vont être la tendance actuelle.
Ah, okay.
Ou alors, voilà, avec un petit peu d'humour. Ouais, c'est,
mais parce que
plein de choses.
Le gamer, on appelle ça un gamer,
un
gamer,
un
qui se filme, mais il commente énormément, il commente tout le temps ce qu'il est en train de faire.
Ah, c'est ça qui est
ça
bien.
Aussi.
Ah, oui,
et ce qui fait que... ceux qu'ils regardent aussi prennent des tuyaux ou
la personnalité compte.
Voilà. Ouais. Alors toi, exactement. Comment ça se passe? C'est-à-dire que qu'est-ce que voient le spectateur, finalement, il voit ton écran et les mots qui s'affichent, ou il te voit aussi, toi, à chercher, écrire, comment ça se passe?
Donc, bah, c'est ça, en fait. Moi, il y a une petite caméra, un petit encadré en bas à droite.
Jérôme Rey regrette d'être venu, là. C'est pas la bonne émission pour moi.
On l'a déjà perdu.
En gros, oui, c'est ça, de son téléphone.
Je suis moins compétent dans ce...
Mais tu pourras me suivre sur Twitch, tu verras, Jérôme. T'inquiète, c'est très simple, tu vois.
Là, c'est comme ça.
On va demander s'il y a de la musique,
voilà,
après.
Voilà, c'est ça.
Là, c'est là, donc, intérêt, alors, parce que c'est de la radio.
On te voit, okay.
Mais là, on voit écrire
Axel. Sur l'écran, une fenêtre. Une fenêtre avec toi.
C'est ça.
Le texte.
Et puis des fois des photos agrémentées pour histoire que ça soit un petit peu plus visuel.
Caméra 2, Emma, caméra 2.
Merci, merci, j'y vois beaucoup plus clair.
Ok.
Voilà.
Donc, c'est clair. Clair. Donc voilà le concept. T'es le seul ?
Alors en écriture, je ne connais pas tout le monde sur Twitch, hein, y en a beaucoup. Mais je pense être un des rares à le faire. D'accord. Il y en a quelques-uns qui font des fois des ateliers d'écriture. On connaît une là qui est notamment affiliée et puis même qui est carrément soutenue par Twitch. Il y a une grosse communauté derrière. D'accord. Mais elle n'en fait pas tout le temps. Contrairement à moi où je le fais toutes les semaines, le lundi soir pour l'instant. Donc voilà, c'est pour l'instant où je suis à peu près le seul. Et puis dans les salons que j'ai pu faire notamment, j'ai pas eu l'occasion d'en croiser d'autres pour l'instant.
D'accord. Toi, tu commentes, du coup, est-ce que tu commentes quand tu travailles ou vraiment tu es toi en travail, enfin, tu écris sans rien dire, et par moment, c'est quoi, toi, t'as des petites cloches qui viennent comme ça, avec quelqu'un qui veut te parler.
Ouais, oui, Minitel, Minitel. Okay. Génération Minitel.
Des petits smurfs, des petits smouffs, des smacks, où les gens sont en direct et peuvent à tout moment intervenir.
Donc en fait, oui, bah, globalement, moi je suis quelqu'un qui se parle déjà tout seul. Quand je suis
C'est ta communauté déjà.
Voilà, c'est ça.
Le problème, déjà, le problème, mais
c'est la drogue. C'est la drogue, bah oui.
Donc globalement, c'est plutôt facile pour moi d'animer. Je suis un ancien enseignant aussi, donc forcément, moi j'ai la parole facile. Donc bah là en fait moi je commande généralement ce que j'écris.
Alors là
je l'écris à voix haute. Ouais, non mais c'est un petit peu ça.
T'enseignais quoi,
J'ai enseigné la technologie et puis un peu encore avant j'enseignais tout le domaine, mon domaine de parcours professionnel que j'ai pu effectuer, donc tout ce qui est chauffage, plomberie.
Ah oui, on va parler du parcours, faut qu'on revienne au parcours.
Ouais, on reviendra après.
Je voulais bien comprendre Twitch ce que c'était. Ok, la communauté te suit.
Une histoire de tuyaux.
Exactement.
ADSL. Et est-ce que ça a vraiment changé l'écriture de certains de tes livres? Est-ce qu'il s'est passé des choses que tu n'aurais pas imaginé? T'as vraiment changé une histoire? Ou alors c'est vraiment un truc qui est sympa avec ta communauté?
On écrit en fait des œuvres nouvelles. Donc au début, on a parti sur du medieval fantasy comme moi je sais faire. Donc ça, on a fait une petite histoire déjà là-dessus qui n'a jamais été rediffusée derrière. Et là, du coup, on a commencé une nouvelle œuvre avec des pirates de l'espace. Ça, c'est eux qui m'ont donné le thème en fait. Un domaine que je maîtrise, mais alors pas du tout, la SF. Déjà, j'en lis pas.
C'est par vote ou t'avais plusieurs choix et ils ont voté? Ou alors c'est quelqu'un qui t'a dit aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une histoire de pirate de
l'espace? En fait, il y a plusieurs, la communauté en fait propose des choses et du coup après il y a un vote qui est fait avec Instagram notamment où on fait des sondages et du coup c'est tombé là-dessus.
Instagram c'est pas comme Twitch, hein, c'est encore autre chose, Jérôme.
C'est un autre réseau.
Mais là tu parles de communauté, il y a combien de membres
qui
suivent? Alors moi sur Twitch pour l'instant j'ai que 70 personnes, mais j'ai jamais 70 personnes qui me regardent en même temps.
Voilà, oui, mais ça ne rentrerait pas dans ce studio.
Non,
exemple,
exactement. Moi j'ai une toute petite communauté et de toute façon je pense pas aller au-delà dans l'écriture parce que si j'avais 1500 ou 10 000 qui parlent en même temps, c'est juste
c'est
si tout le monde
impossible.
Donne son avis.
C'est juste pas possible, quoi. Donc moi
en
je reste
sur
une communauté.
C'est une forme de travail en équipe.
Exactement.
Mais avec des gens de partout que tu connais pas forcément.
Exactement, en fait. C'est l'avantage, c'est que du coup, ça donne, pour un auteur, c'est assez difficile des fois de trouver l'inspiration ou des idées. Là, en fait, on est à 5, 6, 10, 15 cerveaux à réfléchir en même temps sur l'œuvre. Et puis en plus, alors, animé, honnêtement, je l'ai fait en plus en plein salon. J'ai fait, il y a le record sur YouTube. Je l'ai fait en plein salon du Japan
YouTube.
Tour Festival.
C'est encore autre chose, YouTube.
Et honnêtement,
ouais,
c'est
pas pour un demeuré,
hyper, hyper difficile d'animer ça, déjà, de base. D'écrire c'est fatigant, de l'animer c'est différent, et encore dans un salon c'est encore plus fatigant. Donc heureusement que des fois il y a des personnes qui viennent qui m'écrivent les phrases parce que du coup
est-ce qu'à un moment t'as envie par exemple de perdre le contrôle total et de laisser la communauté gérer, je sais pas, tout un chapitre?
Alors c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'il soit vraiment dans l'écriture, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est plutôt des personnes qui ont envie d'écrire et donc pour forcément, on va dire, la façon de faire. Donc c'est ça qui n'est pas forcément évident non plus. Donc moi, je les guide. C'est vraiment plutôt moi qui écris en fonction de eux, les infos qu'ils me donnent. Donc moi, je vais écrire, puis d'un seul coup, ils vont me dire « Non, non, change la phrase, tu mets ça ». Je réfléchis, je dis ah, ok, alors quand c'est adapté, je le mets, quand c'est pas adapté.
Et tu dis coup, oui en direct, enfin tu fais ça en direct, ouais, ou alors tu dis oui, je prends vos idées, puis à la fin chez toi, tranquille, tu réalises, parce que c'est excessivement personnel l'écriture d'un livre.
Oui, mais là justement, je suis parti du principe que c'était pas mon œuvre en fait, concrètement. Okay. Là, c'est vraiment l'œuvre de la communauté et on écrit ensemble.
Pardon, 100% de cette œuvre est faite en collaboration. Oui. Il n'y a pas une partie, une partie, tu te réserves, tu travailles le soir chez toi, le lundi,
non.
Comme tu disais.
J'ai beaucoup trop de travail à côté, parce que je suis auteur à plein temps, donc j'ai vraiment...
Et t'es un bon avocat pour les droits d'auteur ?
Alors, pour l'instant, je ne le publie pas, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis tranquille.
Question piège. Hein.
Exactement, alors, mais je me suis posé.
C'est aussi de la com aussi, quelque part.
C'est purement
de la com, tu l'assumes, ok, très bien. Et c'est très bien.
Ah bah oui, il faut l'assumer de toute façon parce que c'est l'objectif.
Ouais. Donc il faut aller sur Glitch.
C'est ça.
Ouais. Twitch.
Et alors, tant qu'on est dans les anglicismes, c'est les Twitchers, les gens qui te... Non, comment on dit
Les viewers.
Les viewers.
Voilà.
Complètement à la masse. Moi.
Rien à voir.
Oui, c'est ridicule. Et il y a aussi, tu parles aussi...
Les viewers, ils gagnent beaucoup sur Twitch.
Bien joué. Et Discord, c'est encore autre chose?
Oui.
Pardon, hein, mais qu'est-ce que c'est Discord ?
Discord, du coup, c'est un autre réseau social sur lequel il y a des salons, on va dire ça comme ça, où les gens, en fait, viennent dans le Discord. Moi, j'en ai créé un, du coup, à l'occasion pour les œuvres.
Et
en fait, on vient,
pour l'écriture.
Non, pour l'écriture uniquement. Puis on vient discuter. Par exemple, je lance des petits défis. Je leur demande, voilà, si vous étiez un personnage de tel univers, vous seriez lequel ? Donc, du coup, ils me répondent et à la fin, ça me fait un post Instagram sur lequel je mets le résultat. Et du coup, avec des images, alors désolé pour ceux qui sont contre l'IA, mais j'utilise l'IA parce que sinon ça me coûterait super cher de faire une image à chaque fois par un dessinateur.
Oui, mais tant que c'est écrit, tant que c'est dit, et voilà.
Oui, non, c'est annoncé, il n'y a pas de souci.
Est-ce que tu te verrais, Delphine, écrire un livre ou une partie de ton livre ou un chapitre ou avoir une idée lancée par comme ça ta communauté ?
Je trouve que l'exercice est super intéressant et je te tire mon chapeau parce que franchement, je trouve que c'est pas simple de partir d'une idée déjà. Alors, j'ai déjà eu des commandes de la part d'éditeurs, donc travailler sur un sujet qui m'était entre guillemets proposé plus exactement, j'ai déjà fait.
On était venu nous parler de ça.
Tout à fait. Mais par contre, arriver à suivre en même temps différentes idées, je trouve que vraiment c'est pas simple. C'est pas simple et encore une fois, bravo, parce que je sais pas si je serai en mesure en effet d'associer toutes les idées qui peuvent être proposées, tout en prenant garde de ne froisser personne, parce que j'imagine qu'il faut aussi faire attention à ça.
Ce qui paraît difficile.
Bah ouais.
Carrément.
Donc voilà, non, c'est, par contre, c'est, encore une fois, je trouve que c'est un exercice de pratique d'écriture super riche.
Ouais, ouais. Mmh. Je ne sais pas si je pourrais me créer un compte Twitch.
Alors, c'est ça, dernière question, en tout cas, parce qu'on va se quitter. Non.
La communauté a dit, mettez-les dehors. Alors, pardon.
Mais
pardon.
Est-ce qu'il y a... Parce que je suppose que parfois, c'est pour faire avancer l'action, ou c'est un événement, ou c'est quelque chose qui va... Donc, est-ce qu'il y a vraiment débat ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a confrontation ? Est-ce que des fois, ça peut durer assez longtemps sur argument, contre-argument, sur ce qui va arriver au héros, par exemple ?
En fait, c'est, comme moi, je suis le guide, il y a un moment où je leur explique, je leur dis, je suis désolé, mais là, on est obligé de faire comme ça, on est obligé d'avoir un élément déclencheur, parce que c'est moi qui connais un petit peu mieux le fonctionnement, on va dire, d'un manuscrit. Je sais à quel moment il faut qu'il y ait une action, qu'il faut qu'il y ait un bouleversement. Donc c'est moi qui leur impose, des fois je dis, on est obligé de mettre un bouleversement, donc là il faut que vous me trouviez une idée d'un bouleversement. Qu'est-ce qui pourrait arriver au personnage à ce moment-là ? Quand vraiment il n'y a pas d'idées qui viennent, je propose des choses, je leur dis, est-ce que vous pensez ça ? Alors des fois ils me disent, non, ça va pas et tout ça. Et puis il y a des fois ils me proposent d'autres choses, ou moi je leur propose des idées qui leur vont très très bien en fait.
Et les bonnes... 70, c'est déjà pas mal, mais est-ce que tu les connais bien ? Est-ce que...
Une partie, oui.
D'accord, ok.
Les plus fidèles, je les connais.
Ouais. Ok. Et est-ce que quand ils te proposent des choses, ça correspond aussi
On peut faire des communautés avec des ex.
Mais non, mais voilà. Mais tu vois, est-ce que le héros, là, on dirait qu'il rencontre une belle blonde. Non. Sylvain, ta gueule. Un autre, il se fait éclater la tronche. Mais non,
alors, est-ce que...
j'ai besoin qu'il
J'essaye, moi, de mettre toutes. Même des fois, les idées, surtout la première heure, c'était très comique. la moindre bêtise, surtout que les fidèles,
ils y vont.
Ouais. Et puis avec les jeux de mots, tout ce qui va. Il y a vraiment que sur la première œuvre, il y a que des jeux de mots partout. On est parti. Enfin voilà, sur un dragon schizophrène. Enfin voilà.
Bref. Mais il y a pas de dérapage de propos qui pourraient être mal interprétés, scabreux, etc. T'es obligé de modérer un peu.
Ouais. Il y a de la modération forcément, surtout sur des nouveaux qui arrivent éventuellement. Mais c'est très rare parce qu'en fait j'ai une communauté qui est plutôt bienveillante. Donc et puis j'ai des modos qui sont exceptionnels. Donc dès qu'il y a un petit dérapage, pouf, voilà, ça disparaît. Ah ouais.
Pouvoir magique.
Modération. Et ils sont toujours, enfin c'est souvent les mêmes qui ont des bonnes idées ou des bonnes formules, les deux trois qui pourraient eux-mêmes écrire d'ailleurs.
Des
numéros.
Bah en fait c'est souvent soit des personnes qui veulent écrire ou qui savent écrire, voilà. Il y a des professeurs de français notamment dans le chat. Et puis des personnes qui en effet écrivent déjà.
Des frustrés.
Non, pas du tout.
Je plaisante.
Mais oui, donc forcément, ils ont l'habitude. En fait, ils lisent beaucoup. Il y en a qui sont des très grands lecteurs.
Et comment va s'appeler ce livre? Celui qui est en.
Pour l'instant, c'est Pirate Wars, mais c'est simplement par défaut. C'est parce qu'il faut trouver une œuvre, mais on verra. En fait, le titre, ça se trouve surtout à la fin. Enfin, pour moi, en tout cas, souvent, ça se trouve à la fin.
Parce que c'est un résumé.
Pirate Wars. Wars. Ouais, la guerre des pirates.
Ouais,
les guerres des pirates.
Ça, mais ce ne sera pas, à mon avis, le titre définitif.
Okay. D'accord. Mais je l'aurai. Hop. J'écrivais ça pour être bon élève, moi. Eh ben, dis donc, on en a appris des choses. Hein. C'était bien bonne entrée en matière, en tout cas, pour comprendre comment
ça fonctionne. C'est ouvert, c'est-à-dire que tout le monde, les gens qui vont écouter cette émission peuvent éventuellement prendre contact avec toi et dire bah, moi, je serais intéressé pour tenter l'expérience. Ouais. Parce que ça se tente comme expérience.
Non, je ne te recommande pas, Pascal.
D'accord, pas moi.
Tu vas t'énerver, toi.
Je ne pourrais rien amener du tout. Modo.
Sur Twitch, Axel Douglas sur Twitch.
C'est ça, Axel Douglas.
D-U-G-L-A-2-S.
C'est ça.
Si on parlait un peu plomberie, un petit peu quand même. Non, mais raconte un peu ton parcours, je suis curieux de ça.
Alors, comment dire, au collège, j'étais très mauvais en français. J'avais moins 25 en dictée. J'ai appris bien plus tard que j'étais dysorthographique.
Ah, bah oui, forcément.
Voilà, donc, forcément, ça n'aide pas du tout.
Évidemment.
Du coup, je suis plutôt parti vers une voie professionnelle, donc un BEP en plomberie, suivi d'un bac, suivi d'un BTS et d'une licence. Donc, j'ai fait 7 ans dans la plomberie, 3 ans en alternance. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, bon, c'était très bien, j'aimais bien ce métier, mais en fait, je voulais pas en faire mon métier.
Okay.
Donc, je suis parti dans la formation pour adultes pendant 3 ans. Et ensuite, je suis parti plutôt dans l'enseignement collège.
Voilà. Okay. Et rapidement, tu as trouvé ta voie dans l'écriture, tu as décidé.
L'écriture, ça a toujours été en fait pendant mes études, notamment au lycée. J'écrivais beaucoup. Et en fait, j'ai retranscrit les Épées Célestes. En fait, c'est un peu une retranscription de ma vie lycéenne dans une œuvre fantastique.
Ok, super. Voilà. Ouais, tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Ouais, mais c'est super. Tu écris avec une mine de plomb.
Ça ne se soude plus, le plomb.
D'accord. Bon, c'est peut-être un détail. Non, très bien. Non, on va parler des Épées Célestes. Je voulais quand même mettre en lumière Delphine, qui est là pour nous présenter le prix des apparences. Tu nous le pitches, Pascal, le prix des apparences?
Ah, ça va être difficile parce que c'est un polar.
Bien.
On parle d'une disparition.
À chaque étage. J'ai fait chou blanc à chaque étage.
Non, j'y vais. On parle souvent de disparition. Et là, c'est une femme qui est sans nouvelles de son mari. Elle est avec ses 3 enfants, ses 2 grands jumeaux et sa dernière fille. Et elle va essayer de mener l'enquête parce qu'elle y croit peut-être pas vraiment au fait qu'il soit parti comme ça. Et à partir d'une photo, elle va avoir un doute et elle va remonter petit à petit grâce à cette photo. Il y a plein de personnages. Ça commence, enfin, moi j'ai plein de questions à te poser en fait.
C'est un thriller quoi.
Ouais, complètement. On est sur un polar. C'est très cinématographique. Est-ce que c'est notre façon de décrire maintenant? Est-ce qu'on est moins dans la littérature pure avec beaucoup de descriptions? Et pourtant, tu donnes des descriptions quasiment à toutes les pages, à tout ce qui se passe, mais c'est assez rapide dans la description. On est tout de suite dans le vif du sujet. Et encore une fois, on a facilement et rapidement les images qui viennent de l'histoire. Et ça, j'aimerais bien savoir si tu écris en pensant aussi éventuellement à des images, mais surtout la construction et la progression et ça monte en puissance.
Faudra se taire à un moment
d'une façon extraordinaire. Je suis désolé.
J'ai oublié la question.
Ayez vous emmerdez. Il y a le micro.
On s'est regardé avec Emma, on rigolait en coin.
Ma réponse est non, mais rappelez-moi la question.
Pardon, ah si Pascal. Si, je me souviens, Pascal, je me souviens de ta question.
J'ai voulu faire le pitch, mais
Bien,
c'est très bien.
Le pitch est validé.
Tout à fait, tout à fait. Donc pour répondre à ta question.
À ces questions.
Je
On va repartir sur la première, à savoir est-ce que j'ai des images dans la tête. En effet, est-ce qu'il y a un côté peut-être un petit peu plus scénaristique? Oui, sans doute, parce que depuis maintenant 2-3 ans, je me forme au scénario. J'ai développé aussi cette autre activité-là. D'ailleurs, je travaille maintenant en collaboration avec un auteur scénariste sur différents projets. Ah, on a vendu des options avec des producteurs. Donc, il y a aussi cette partie-là qui, sans doute, aujourd'hui influence ma façon d'écrire, même si c'était quelque chose qu'on m'avait déjà retourné, de dire, mais en fait, tes livres, on a l'impression de voir un scénario de film, enfin, on a l'impression de voir des scènes de film. Donc, sans doute, oui, beaucoup. Et puis, j'avais vraiment envie d'apporter un regard très réaliste, très, très fort aussi chez Julie, le personnage principal. Donc, avec, je l'avoue, hein, même si je ne lui ressemble pas à Julien, mais il y a quand même des inspirations aussi de ma famille, etc. Donc, c'est des scènes parfois que j'ai pu voir ou voilà, que je peux mettre rapidement en écriture parce que c'est des choses que, voilà, qui sont dans ma tête aussi.
D'accord. Et puis, il y a plusieurs femmes aussi dans ce roman. Et est-ce qu'il y a un peu de Delphine dans chaque femme ou ce serait éventuellement plutôt Julie, le personnage principal auquel tu t'es peut-être identifiée? J'ai fait court. Attends, je vais calculer la prochaine fois. Attends, je vais mettre un timer.
Moi, j'ai adoré ta question. Je pourrais y répondre, mais j'ai pas écrit le livre.
Non, mais on peut plus avoir l'œil qui frise tranquillement maintenant.
Il y a un peu de Delphine dans chaque personnage, et il y a un peu d'autres personnages de mon entourage dans ces femmes aussi.
Des noms.
je garderai leur anonymat.
La science-fiction, le fantasy, c'est encore un univers éloigné vraiment de ton travail. C'est quelque chose que vous connaissiez, vous, pour avoir fait des salons ensemble.
Tout à fait.
C'est ça.
Et vous connaissez les œuvres de chacun. En tout cas, vous avez partagé des choses.
Alors, moi, la science-fiction et la fantasy, effectivement, c'est un univers que je ne connais pas beaucoup et sur lequel je n'irai pas forcément. Je laisse aux artistes de ce domaine-là vraiment la plume. Je suis sur la littérature générale et sur du polar, avec quand même souvent en toile de fond toujours une histoire, des histoires de femmes, de famille. Ça, c'est, voilà, c'est un peu ma marque de fabrique aujourd'hui. Est-ce que j'irai un jour? Je ne sais pas. En plus, on parlait tout à l'heure de niche, on parlait tout à l'heure aussi de façon de se faire connaître. C'est pareil, ce sont des éléments qu'on a pu voir, que je me suis formée, on nous a fait le retour de dire, mais attention, partez pas dans trop de domaines et de genres littéraires différents, parce qu'au final, vous risquez de perdre aussi vos lecteurs. Ils vont vous attendre. Okay.
Sans non plus s'enfermer, c'est difficile.
C'est difficile, et même, je prends moi-même un risque en étant à la fois sur du polar et à la fois sur la littérature blanche, parce que il y a des gens qui vont peut-être avoir accroché avec Le Prix des apparences, et puis mon prochain, c'est pas un polar.
Ouais, okay.
Donc, voilà, on va peut-être dire, ah bah tiens, je vais chercher Delphine Bilien, c'est du polar. Donc c'est pour ça que si partir dans de la fantasy ou de la science-fiction, ça risquerait d'être dangereux. J'ai même essayé un feel good, je l'ai, il a été publié sous un pseudo, ça a été un flop complet, parce que forcément, quand on n'a pas de communauté, on ne peut pas faire de la pub sous son nom. Enfin, voilà, ça a été vraiment très compliqué. Donc je pense que celui-là, c'est pareil, je le garderai, parce que si je sors en feel good, les gens ne me reconnaîtront pas non plus là-dedans. Donc c'est jouer habilement entre ce sur quoi on est à l'aise et ce sur quoi on va nous attendre aussi.
Lorsqu'on écrit une fiction, il y a toujours ça m'a toujours interrogé. Est-ce que tu as toute l'histoire dans ta tête avant de te mettre devant ton ordinateur ou ta page blanche, ou est-ce que tu as juste un plan et après c'est au fil des pages et de l'écriture que l'histoire se développe?
Ou t'es super feignant comme Axel et tu fais appel aux autres.
Allez-y les gars, je repasse dans deux heures.
Oh là là,
vous me bâclez le chapitre là. Hop.
Alors, je vais parler en mon nom, parce que je sais qu'il y a vraiment des différentes méthodes en fonction des auteurs. Moi, j'ai besoin, avant d'avoir commencé à écrire la première ligne de mon livre, de savoir où je vais. Si j'ai pas
Donc, il y a un plan précis.
Il y a un plan précis. D'accord. Si je n'ai pas la fin, je ne vais pas le terminer. Parce que je risque, en effet, de bloquer, de me dire, tiens, comment je vais faire, etc. après. Et puis, on va le mettre de côté. Puis, il y a un autre projet qui va arriver. Et donc, ça, c'est la meilleure façon pour moi de pas aller jusqu'au bout d'un projet. Par contre, systématiquement, même quand j'ai fait le plan, une fois que je vais avoir écrit l'ensemble, je suis obligée de revenir, parce qu'il va y avoir, pour moi c'est vraiment un tableau quand on écrit un livre, on a on a l'idée globale, on va poser ses comment dirais-je, son dessin, et puis après on va aller apporter des touches de couleur. On se rend compte qu'il n'y a pas assez d'ombre de ce côté-là, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de profondeur de celui-ci. Et je suis systématiquement contrainte de revenir pour réapporter des éléments qui pourraient avoir manqué, même si au départ j'ai fait mon squelette.
Intéressant.
Hyper intéressant.
On continue à échanger sur le travail de Delphine Bilien et d'Axel Douglas. Hein, deux salles, deux ambiances. Vous êtes différents, c'est chouette. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Vous les retrouvez notamment, il faut le dire quand même, dimanche, tous les deux dimanches,
oui.
Dimanche. Dimanche à Juvardeil, dans le très respecté salon du livre de Juvardeil. Mais avant cela, petite pause musicale. Et qui mieux que Jérôme Rey pour nous parler musique.
Оперную школу и себе в жены избрал другую.
Moi, j'ai vécu avec un transistor avec mon frère, le fameux Bertrand. Et on écoutait Alain Barrière, ça avait une autre allure, quoi. Gérard Lenormand, et Edith Piaf.
Oui, je voulais tout d'abord remercier Olivier de m'accueillir à nouveau au sein de l'équipe de l'Afterwork et saluer mes camarades. Les négociations pour préparer mon retour qui ont lieu dès le printemps furent longues, parfois très tendues, brutales. Quelques noms d'oiseaux furent prononcés, mais après plus de 6 mois de pourparlers, un accord historique, un accord exemplaire, qui je l'espère servira de modèle pour les futures collaborations, a finalement été signé au début du mois dans le bureau de nos avocats respectifs.
Les fameux tickets resto.
Ce qui me réjouit au plus haut point. Je dois préciser que la direction de Radio Campus a fait des efforts non négligeables et que mes principales revendications ont été acceptées, mais bon Dieu, ça n'a pas toujours été facile. Accord salué par l'intersyndicale de Radio Campus. Enfin, c'est fait, tout le monde s'en réjouit.
Ah, bravo.
Et il l'a écrit.
Je reprends donc ma chronique musicale, la seule chose que je sache faire, pour vous parler de Bob Dylan, un vieil ami, une obsession ancienne que je n'arrive toujours pas à soigner. Oui, je l'avoue, je suis quelque peu Bob-cédé. Le vieux Zimmerman, son vrai nom, est à 83 ans, toujours alerte, toujours mystérieux, secret, mais il persiste à sillonner le monde en donnant une bonne centaine de concerts par an. Il sera à Paris fin octobre, c'est complet. Pour assurer ses vieux jours, maintenir son train de vie, sa maison de disques historique, Columbia, exhume de ses archives un coffret de 27 CD regroupant la quasi-intégralité des concerts donnés en janvier-février 1974 lors de sa première grande tournée depuis 8 ans. 40 concerts en 21 jours, un public aux anges. Dylan remet les pendules à l'heure, reprend ses classiques dans des versions survitaminées, rageuses, hargneuses, avec les musiciens du Band, le groupe qu'il accompagnait en 1966. Les morceaux joués lors de ces concerts varient peu d'un concert à l'autre. Les morceaux retenus sont des valeurs sûres, comme ce titre, composé en 1973, devenu un de ses classiques, Forever Young, écrit à l'origine comme une berceuse. Dylan s'adresse à son jeune fils, Jesse, en espérant qu'il devienne fort et heureux. La chanson s'ouvre sur ces lignes. « Que Dieu te bénisse et te garde toujours, que tous tes souhaits se réalisent », faisant écho à la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres, dont les lignes commencent par « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur vous accompagne de sa lumière et vous éclaire ». On écoute.
And keep you always. Your wishes all come true. You always do for others, and let others do for you.
Merci Jérôme de ce rappel à l'ordre des fondamentaux. Bam! C'est important.
Ouais, magnifique, magnifique.
Toujours l'Afterwork de Radio Campus Angers.
Oui, et il faut peut-être qu'il nous présente aussi Jérôme, puisqu'il est là. On profite de Louis, on est tellement content que tu sois là, Louis. Et, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Louis au lieu de lui. préviens-moi, Emma, quand je fais des... Ça, tu dis rien, là.
On grattera au montage.
Et, allez, parle-nous du CD que tu viens de sortir. Il n'y a pas que le CD, il y a aussi tout ce qu'il y a dedans, ce CD.
Non, oui, c'est avec un vieil ami, on a travaillé pendant pratiquement un peu plus de 4 ans sur un projet autour de Dylan, toujours, pour sélectionner des artistes, enfin, des songwriters, des auteurs-compositeurs qui avaient été influencés par Dylan entre les années 64-69, à peu près, c'est le cœur du disque. Et avec 25 morceaux d'artistes pas ou peu connus. On a mis 4 ans pour faire le projet. Mmh. On a eu le feu vert d'une maison de disques en Allemagne il y a 2 ans. Et ça a été très très long parce que les négociations juridiques ont été longues,
encore
complexes, etc.
T'en sors pas.
Il a fallu...
C'est un mec en merde.
Il a fallu retrouver des ayants droit. Enfin bref, ça a été un...
Ah oui.
On n'a pas eu tous les titres qu'on souhaitait, parce qu'il y a des titres qui nous ont été refusés, parce que les maisons de disques ne savaient plus où étaient passés les contrats, n'avaient plus de traces des masters, etc.
Ils ne peuvent même pas, à ce nom-là, vous les laissez.
Ben bah non, là on peut
qui
pas.
Qui touche de l'argent, ils savent même pas.
Personne, mais Universal, qui est la grande majeure du disque, qui détient à peu près 40% du marché du disque dans le monde, avait beaucoup de titres qui sont sur ce disque. Mm-hmm. Mais comme une partie de leurs entrepôts avec leurs archives avait cramé à Los Angeles il y a une dizaine d'années, on pense qu'il y a beaucoup de contrats, de masters qui ont disparu comme ça dans les cendres de cet incendie. Alors nous, les artistes qu'on a mis sur ce disque sont pas très connus, mais il y a des grands artistes comme Tom Petty, John Cougar, d'autres grands bluesmen dont toute une partie de leur catalogue a entièrement disparu.
Alors 25 morceaux, mais ça veut dire que vous en avez écouté combien C'est-à-dire que vous étiez au courant de qui a été influencé?
Non, mais parce que le Philippe Lebras, l'ami avec qui j'ai fait ce disque, est encore plus malade que moi musicalement. Il a une collection de disques absolument faramineux. Je crois qu'il doit avoir, je crois, une 20 000 albums, quelque chose comme ça. Donc il a fait la sélection. Après on a modifié ça ensemble. D'accord. Et nous on a amené le projet avec les morceaux, les notes de pochette, la pochette dessinée. On a vraiment amené tout ça. La maison de disques, son seul rôle, c'était d'obtenir les autorisations et de faire la fabrication et de distribuer. Donc là, le disque, là, sort en France le 17 octobre.
Il va être dans des magasins, dans
Fnac, Amazon, partout, Leclerc, Cultura. It Took Us By Storm, parce que ça a vraiment été un coup de tonnerre terrible quand Dylan est arrivé dans les années 60, parce qu'il a tout révolutionné. Et ce disque est fait à la mémoire d'un Américain qui était un vieux beatnik, poète, jazzman, qui s'appelait John Sinclair, qui est décédé il y a un an, et qui avait été le manager d'un groupe qui s'appelait le MC5, qui était un groupe à l'origine du hard rock aux États-Unis en 1968-1969. Il avait fait pas mal de prison à cette époque, parce qu'il avait vendu de l'herbe à un flic du FBI.
Ce qui n'était pas une bonne idée.
Et donc il était en taule à Chicago, et John Lennon lui avait écrit une chanson qui s'appelle John Sinclair, qu'on retrouve sur un des disques de John Lennon, pour l'aider, avait payé tous ses frais de justice, d'avocat, etc., pour le faire sortir. Lennon s'était battu comme un chien pour le faire sortir. Et John Sinclair, jusqu'à ces dernières années, habitait en Europe, aux Pays-Bas. Et c'était un grand, grand fan de Dylan.
Toi qui étais donc à Paris dans les années quoi, 70-80, t'étais à la création de Radio
Nova.
Non, je ne sais pas à la création, mais je suis arrivé à Nova.
On peut dire comme ça, ça fait bien dans les dîners en ville.
Le RCF, c'est lui. Ouais. Pareil.
Et Dylan, tu l'as vu en concert, tu l'as rencontré, tu as eu l'occasion de le croiser.
On ne peut jamais le rencontrer. Non.
J'ai vu en concert,
je ne sais pas, une dizaine de fois, 12 fois, 15 fois, je ne sais plus. Mais non, c'est impossible de le rencontrer.
La rencontre avec Dylan, ça se fait quand? T'es tout jeune
Je vais avoir 12 ans, je crois.
On fera une émission spéciale Dylan et puis on parlera évidemment du disque de
Mais on en reparlera avec plaisir.
Avec plaisir.
Ouais.
Avec plaisir.
Profitons de nos invités Delphine Bilien, Axel Douglas. Axel, quand une idée te vient, toi, c'est forcément toujours une saga? Non mais c'est vrai parce que c'est sont des livres fleuves. Oui, il y a plusieurs tomes.
Oui, oui, il y en a plusieurs. Puis il y en a toujours plusieurs qui sont prévus à chaque fois. C'est vrai que j'ai des idées de one shot, mais globalement, elles aboutissent jamais parce que je reviens tout le temps sur mon univers en fait.
D'accord.
La différence avec la fantasy.
Personnages.
Ouais. Bah c'est qu'en fait l'univers de la fantasy déjà dans un premier temps on est obligé de créer tout un univers parce que c'est totalement imaginaire, on n'est pas sur notre monde à nous, contrairement au polar du coup où on peut faire des one shot plus facilement. Le truc c'est qu'une fois qu'on a créé l'univers, bah en fait on a toujours envie de le développer, de l'agrandir et de continuer. On dit ah, tiens ce territoire là je l'ai pas encore exploré, tiens j'irai bien l'explorer. Ça permet de vraiment, là comme tu parlais de peinture tout à l'heure Delphine, bah là ça permet vraiment d'étendre la toile et de faire quelque chose de gigantesque. Donc forcément bah oui, ça amène malheureusement des trilogies, des sagas, ça c'est un gros défaut de la fantasy pour moi.
Pas que toi, je veux dire tous les auteurs qui font de la fantasy, souvent c'est vrai que ce sont des choses, c'est des trucs sans fin quoi.
Exactement, c'est l'avantage de l'imaginaire.
Quel est le public de la fantasy et depuis quand date? Est-ce qu'on peut dater la création de ce style fantasy?
Oui, bah c'est clairement J.R. Tolkien en fait qui a apporté en Angleterre ce style-là et qui a fait découvrir à toute une génération, voire plus, l'univers de la fantasy. C'est lui qui en a posé les codes.
Ah oui, c'est le maître à penser.
Fantasy, on pense forcément à Tolkien. Après, il y en a eu d'autres. Il y a d'autres auteurs puis aujourd'hui qui font des œuvres grandioses.
Des noms.
Y a Terry Goodkin qui a fait aussi une sacrée saga avec l'épée de vérité, notamment il y a J.R.R. Martin avec Game of Thrones qui a révolutionné un petit peu aussi d'une certaine façon le genre.
J.R.R. Martin il s'appelle
J.R.R. George et après je sais plus.
Non, Gérard Martin.
Gérard Martin.
Arrête de frimer. C'est Gérard Martin. Je retiens ce que j'ai dit.
Je prononce très mal. Ouais.
Et c'est quoi le concept de la fantasy? C'est prendre une histoire qui se passerait un peu au Moyen Âge, mais en fait on n'est plus au Moyen Âge.
Dans des mondes parallèles.
Est-ce qu'il y a comme ça un cahier des charges finalement pour faire partie de la littérature de fantasy?
Aujourd'hui, beaucoup moins parce que en fait maintenant on le dérive sur plusieurs styles, plusieurs formats. On a la romantasy là qui fait fureur en ce moment. C'est le mélange entre la romance et du coup le monde fantasy. Voilà, bon, chacun adhère ou pas. Et puis, bah, après, il y a aussi la fantaisie, donc très médiévale. Ça, c'est vraiment celui qui est beaucoup plus courant.
Pardon, la romantaisie, là, c'est Harlequin qui rencontre la fantaisie.
Dracula, c'est un hobbit. C'est Harlequin avec un hobbit dedans.
C'est Twilight, quoi, la série Twilight.
On est
un
peu là-dedans. Twilight,
c'est fantastique pour le coup.
Ah, d'accord.
Parce qu'on est dans notre univers, mais avec. On rajoute.
Il se galoche et pécho à tout va.
Oui, c'est un peu ça, ouais. Oui, bah là, pour le coup, on est. C'est encore un autre style, je pense. Mais du coup, oui, la fantasy, on est plus sur du médiéval, mais il y en a beaucoup qui font aussi maintenant, à l'époque napoléonienne.
Dans l'histoire.
Dans un univers complètement imaginaire, mais avec des codes impériaux ou avec l'âge de la poudre à canon, par exemple. Il y en a qui développent ça de plus en plus. Je trouve ça intéressant parce que ça amène vraiment la fantasy dans d'autres codes, en fait, qu'on n'a pas spécialement l'habitude. Et puis, après, on a aussi pas mal avec Martin, encore une fois, Game of Thrones, qui a apporté d'autres éléments. Si ça te fait plaisir, Pascal. mais voilà, en fait, c'est plus, oui, un univers complètement imaginaire, avec de la magie dedans, des créatures, et puis voilà. Des espèces différentes, des peuples différents.
Avec là aussi, c'est extrêmement cinématographique, évidemment.
Oui, oui, forcément. Puis avec les films, je pense, du Seigneur des Anneaux, notamment, qui ont donné, je pense, à notamment moi, l'envie d'écrire ce genre d'univers, forcément, oui, on va plus imaginer les scènes de façon scénaristique.
Dans tes livres, dans tes romans, tu crées un monde, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on recrée un monde, une société, il y a quelque chose de politique aussi dedans, qui dirige, qui sont. Voilà.
Religion,
et donc tu recrées tout ça, toi?
Oui, en fait, je pars même carrément de la création du monde alors du coup, là, pour l'instant, au niveau de ma chronologie, c'est les épées célestes qui terminent cette chronologie. Les carnets d'Arène, ça se passe une centaine d'années avant les épées célestes. Et puis là, je suis encore en train de créer une autre œuvre à côté. Je ne sais pas du tout la situer encore dans la chronologie. Peut-être que je le ferai encore après, peut-être que je le ferai tout début, je ne sais pas encore. Mais oui, on part vraiment de la création, du début à la fin. On va apporter de la magie, de l'économie, le commerce, la politique, la géopolitique, les interactions, les alliances. On va aussi créer tout ce qui est, on va dire... histoire, personnage historique, voilà, le créateur de telle nation, pourquoi il est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé.
Leur héros aussi à
eux. Voilà, leur héros à chacun. Alors, les langues, j'en suis pas là, puis je pense que je le ferai jamais parce que c'est trop compliqué. Bah, je suis pas linguiste du tout. Donc, je pourrais pas créer des langues, c'est impossible. Enfin, pas pour moi en tout cas. Mais du coup, logiquement, il y aurait ça. Il y a la monnaie aussi qu'on pourrait amener sur certaines nations. Et puis, on va dire les conflits aussi qu'il peut y avoir entre certaines espèces qui peuvent pas du tout se voir et d'autres qui, au contraire, s'apprécient beaucoup. Enfin, voilà. Donc, c'est très complexe et c'est un travail. Ça se fait pas comme ça au bout de deux mois. Mon univers, ça fait depuis 2008 que je travaille dessus et que je le développe. Donc,
est-ce que grâce à ça, c'est aussi une façon pour toi d'être critique de ta société, du monde dans lequel tu vis? Est-ce que tu fais des parallèles?
Forcément, on est obligé de faire des parallèles en fait avec ce qui nous arrive. Il y a notamment dans le tome 2 des Épées Célestes où on parle un petit peu de tout ce qui est on appelle ça les arrivants, ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent dans notre ville, qui saccagent un peu. C'est forcément eux, de toute façon, c'est forcément les arrivants qui saccagent un peu notre ville. S'il y a des crimes, c'est forcément eux aussi. Voilà. Donc forcément, il y a une critique de notre société parce qu'on est là pour ça aussi, à mon sens, en tant qu'auteur. C'est de dénoncer un peu les méfaits ou les a priori qu'on pourrait avoir et ouvrir en fait un dialogue et ouvrir l'imagination des personnes, des lecteurs.
Et en vivant comme ça dans ton monde parallèle, quasiment nuit et jour, t'arrives quand même à être monde.
Comment ça se passe chaque jour? Oui,
oui, pour toi, je veux dire, toi, personnellement.
Je me maquille le matin, je me déguise. Non, pas du tout.
Es-tu complotiste?
J'avoue que longtemps, surtout adolescent, je...
C'est elle qui monte, elle arrête pas de monter.
Surtout adolescent, en fait, j'avoue que moi, j'étais à vouloir rester en fait dans mon univers. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créé en fait, c'est parce que je me retrouvais pas forcément dans les codes de notre monde, mais c'est comme beaucoup d'adolescents. Aujourd'hui, je suis dans mon univers pratiquement tout le temps, surtout la journée. Le soir aussi, avant de me coucher, ça m'arrive à de plonger dedans, mais après globalement, moi, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de
donc tous les jours aussi. Quoi. Tu es apte à notre monde.
Oui, bah heureusement.
Non, mais parce que tu pourrais vivre complètement dans un...
Non, après, j'aime bien m'y plonger. J'aime bien me plonger notamment avec une asso dans laquelle je suis. C'est Anjou Pop Corner qui fait tous les salons de France. Donc bah, là, on est vraiment aussi plongé, on va dire, dans les conventions. Paris Manga, Japan Tour, Langer Geek Fest. Mais j'aime bien en sortir aussi. Parce que sinon, c'est vraiment trop prenant. Et puis, au bout d'un moment...
Une parenthèse sur Anjou Pop Corner.
Yes, Anjou Pop Corner en fait c'est un collectif de streamers, donc comme moi sur Twitch, qui va.
Toi aussi. Non, elle a quelque chose à dire.
Et qui se réunit en fait.
Des streamers qui Twitch.
C'est exactement ça. On fait des lives dans les salons, en fait, on est présent dans les salons, les grands salons, et on va interviewer des invités, donc un peu comme là, en fait. On a par exemple une personne qu'on a interviewée, c'est Brigitte Lecordier, une comédienne de doublage assez réputée dans le milieu.
Qui double quoi ?
Sangoku dans DBZ, par exemple. C'est très pop culture. Dragon Ball Z. Ça te parle ? Non.
J'ai pas compris.
Pop culture. On est très, très pop culture.
Même moi, j'ai compris.
Ouais. Mais toi t'es jeune.
Beaucoup de personnes voilà de popularité. Okay,
Delphine.
Oui, j'avais une petite question. Oui. Justement, comme on n'est pas sur les mêmes univers, je me demandais quels sont les pièges en fait, puisque dans la fantasy, on peut imaginer que tu crées ton univers. Donc, qu'est-ce qui pourrait être un piège et qui pourrait être reproché par tes lecteurs, à l'image par exemple d'un polar, si ça devient carrément à côté ou si l'enquêteur n'est pas crédible, on va te le remonter. Est-ce que dans la fantasy, il existe aussi des pièges?
Alors, il y a des pièges forcément, mais ce que j'adore avec la fantasy, contrairement au contemporain que j'ai déjà essayé d'écrire, ou même juste du fantastique, où on est dans notre univers, c'est qu'on ne peut pas se planter sur une journée, par exemple. On ne peut pas dire que là, il faisait moche ce jour-là dans le contemporain, parce qu'une personne te dira, bah non, c'était le mariage de mon fils. Je m'en souviens très bien, il faisait très beau. La fantasy, on fait ce qu'on veut. Voilà. Une personne se met à voler d'un seul coup devant toi, hein, quoi, c'est pas logique. Si, c'est magique, chute. Voilà. C'est un peu la phrase type. Maintenant, forcément, les puristes qui sont très Tolkien vont dire non, ce peuple-là, il peut pas réagir comme ça, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc, clairement, oui, je me confronte dans mon univers à des puristes. Et c'est le problème de la fantasy. On adhère ou on n'adhère pas, en fait, à l'univers. ça va dépendre. Maintenant, pour le rendre crédible, bah, faut s'entourer aussi de ce qu'on a avec les personnages, notamment. Pareil dans les polars, c'est la même chose. Hein. Dans n'importe quelle même œuvre littéraire, faut s'entourer des personnes. C'est les personnages qui vont créer vraiment l'œuvre et l'univers dans lequel ils se développent. Après, si on veut que, je sais pas moi, les elfes soient violets, on fait ce qu'on veut, quoi.
Et toi, Delphine, dans tes romans, notamment La Rose, les enquêtes,
oui.
Est-ce que tu as pris des libertés? Alors, comme tu étais très attachée à l'histoire, notamment de l'Anjou, notamment d'Angers, du château, est-ce que tu as parfois, pour servir le roman, pris des libertés?
J'essaye de jamais dépasser une limite, à savoir, je me base toujours sur des éléments historiques. Donc je veux raccrocher mon histoire à quelque chose de réel, mais je veux que toute l'intrigue de mes personnages soit totalement fictive. Justement parce que je ne suis pas historienne, justement parce que l'histoire, alors là vraiment en termes de discipline, amène pas mal de, parfois de débats ou de controverses, donc je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc c'est vrai que je vais m'accorder des libertés par rapport à mes propres personnages, mais je vais quand même... Mon objectif, parce qu'on a aussi ça en commun, c'est qu'on est. J'étais enseignante. J'aime apporter aussi des informations sur l'histoire, sur des éléments, des informations tout simplement. Donc je vais essayer de pouvoir, on va dire, trouver le juste milieu, mais jamais franchir cette limite qui ferait que, bah, on dirait, bah, non, mais là c'est pas possible du tout, quoi. Non, là ça n'a pas existé.
Il faut qu'on parle aussi de l'endroit où on peut trouver vos livres, parce qu'il y a de l'édition, de l'auto-édition, des éditeurs, enfin il y a un petit peu de tout. À quel moment on peut centraliser et trouver vos œuvres respectives, Delphine?
Oui, alors le dernier, donc Le Prix des Apparences, est sorti sur Amazon le 4 septembre, donc c'est de l'auto-édition, mais il est également disponible auprès de différentes librairies angevines comme Richer, Hyper-U, Muré-Rigné, Leclerc-Camus, Cultura Atoll. J'ai aussi au Bonheur des Mots qui a accepté de recevoir mes manuscrits, et puis Auchan à Avrier. Donc je les remercie encore infiniment pour leur soutien, parce que c'est très important.
Excellente intrigue, juste... thriller court mais efficace, ouais. À découvrir, enfin il y a des choses de dingue, il y a une intrigue rythmée sur
Je vais faire l'article, puisque je devais faire une chronique, puisque tous les jeudis je fais une chronique. J'ai pas eu le temps de faire la chronique, tout simplement. C'est parce qu'en fait j'ai commencé à ouvrir le bouquin de Delphine hier, et je l'ai fini dans l'après-midi.
Ça c'est un bon argumentaire
c'est à dire que j'étais tenu vraiment de bout en bout sur cette histoire.
Il est vraiment mort.
Ah. On dira rien. Non.
On n'est pas chez Tolkien, on n'est pas.
Okay.
Donc normalement, mais il faut quand même le lire.
Le tueur était violet.
Si il ou elle ou eux ou elle.
Ok. En tout cas, merci pour savoir exactement où on trouve tes œuvres. Et puis, je vardeille entre autres dimanche. Pour dimanche prochain. Et pour toi, Axel?
Alors, du coup, les Épées Célestes sont pour l'instant plus parues, puisqu'on a rompu le contrat avec la maison d'édition. Donc là, je suis en train de les rééditer.
Et ça, c'est pas fictif du tout.
Ça, pour le coup, voilà. Mais ça m'a permis, en fait, l'édition classique, on va dire. Moi, j'étais chez Amalté pour les deux premiers tomes. Le troisième était chez. Et toujours pour l'instant, je suis chez Vérone jusqu'à la fin de l'année. L'avantage, c'est que ça m'a mis un pied dans l'édition, moi qui connaissais rien. Et donc, du coup, j'ai appris au fur et à mesure à connaître les codes de l'édition. J'ai acheté un bouquin pour m'auto-éditer. Et pour le coup, les carnets d'Arlan sont en auto-édition sur Amazon, également comme Delphine. C'est la grande porte aujourd'hui de l'auto-édition, clairement. Il ne faut pas se mentir. Et en effet, on va le retrouver dans certains... Alors, le Leclerc de Camus aussi, Angers, le Super U de Châteauneuf-sur-Sarthe, notamment. Puis après, il faut que je fasse les autres.
Et une question bassement matérielle. Lorsque tu es édité sur Amazon, c'est plus intéressant financièrement? Les conditions sont meilleures par rapport à un éditeur?
Alors, oui, parce que... Par exemple, en fait, c'est un peu... Il y a trois, on va dire, statuts aujourd'hui. Il y a la maison d'édition à compte d'auteur, où là, en fait, il faut payer 3000 euros pour publier une œuvre. À compte d'éditeur.
Qui ne sera pas distribué.
S'ils respectent le contrat, logiquement, c'est bon, mais voilà. À compte d'éditeur, ça ne coûte rien, mais on récupère 10% de la somme sur chaque vente. À peu près, hein, 10%, ça dépend des gens. Il y en a qui touchent beaucoup moins, il y en a qui touchent un tout petit peu plus, mais pas plus. Et l'auto-édition, on touche 100%. L'avantage, c'est qu'Amazon ne prenne aucune com. Ils se débrouillent pour l'impression et c'est eux qui livrent, pour ceux qui les achètent. Et puis sinon, après, moi, je passe par mon imprimeur qui est à La Flèche, en Sarthe. Et qui me les imprime pour une somme très modique, et du coup je récupère moi le reste.
Après,
de la somme.
Le problème, c'est la promotion, parce que sur Amazon il y a des millions de bouquins, donc il faut sortir du lot, quoi.
Exactement, d'où mes différentes plateformes de streaming et autres.
Et tous les deux, c'est votre métier aujourd'hui, ou un de vos métiers aujourd'hui?
Est-ce que vous en vivez?
Ouais.
Non.
Non. C'est très compliqué. C'est même pratiquement, on va dire, pas impossible d'en vivre, mais disons que s'il fallait qu'on vive juste de la vente des livres, il faudrait en vendre, je sais plus, plus d'un millier par mois, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas encore faisable. Après, sinon, il faut décrocher des contrats dans les grosses maisons d'édition. Oui. Ça, Delphine, je pense que tu peux peut-être même plus en parler que moi. Si tu es avec notamment Samuel qui.
Oui, tout à fait. Donc, alors, c'est une course de toute façon aujourd'hui. Oui. Et plus on a de cordes à son arc et plus on a des chances, malgré tout, d'atteindre l'objectif, le Graal, vivre de nos écrits. Donc, il y a plusieurs stratégies. En effet, comme le dit Axel, on a soit la possibilité d'avoir de l'auto-édition, et il y en a qui vivent de ça, donc ça c'est clair, et sur Amazon il y en a qui vivent. Après, en effet, passer par une grande maison d'édition, forcément c'est formidable aussi, il y a une forme de reconnaissance. Ce sont des professionnels aussi aguerris qui connaissent...
Sur la distribution et la promotion.
Sur la communication, sur la mise en page, sur le marketing, etc. Donc c'est juste être... Pour moi, en tout cas, c'est un des objectifs, c'est de pouvoir bénéficier aussi de tout ça. Voilà, et de pouvoir avoir aussi cette corde. Même si je trouve quand même très intéressant, en fin de compte, l'auto-édition, parce qu'on apprend vraiment à gérer l'ensemble du process de la publication d'un livre.
Et puis la liberté.
Et la liberté de choisir aussi, en effet, pas mal de choses. Mais ça permet de comprendre vraiment ce que c'est. Être auteur, c'est pas forcément que écrire le livre, c'est aussi comprendre tout ce qu'il y a autour.
C'est ça.
Voilà, et comprendre aussi tous les attentes du public, ce qu'on va aussi. Comprends. Voilà, on a envie d'écrire un livre pour se faire plaisir, mais il y a aussi le public qui est en face.
Jérôme Rey est venu avec son chéquier aujourd'hui, donc profitez-en, c'est la grande brinerie.
On prend un petit prix.
N'est-ce pas ?
Une dernière question, parce que Jérôme, tu écris quelque part toi aussi. Voilà. La preuve, c'est que tu écris sur. Quel est le. Je voudrais juste. Allez, 2 minutes.
On a 2 minutes pour les questions après. Vas-y.
Ouais, mais même si on ne les fait pas, c'est pas grave. Tous les quatre, un mot qui représente l'écriture pour vous. Tous les quatre. En un mot.
La liberté. Moi, je prends liberté.
Tu prends liberté. Axel, Delphine, Jérôme.
Le plaisir.
Le plaisir.
Ensuite, c'est ce que je voulais dire.
La passion.
Passion.
Oui, plaisir, passion. Oui.
L'évasion.
Ok.
Pas mal.
Très bien.
Le dos à dos. Quelques questions auxquelles on vous demandera de répondre du tac au tac, alors que Pascal s'échauffe la voix.
Une petite musique.
Ambiance.
C'est en
Rome.
On se pose.
C'est Pascal.
Tous les quatre, et je vais vous poser des questions à tous les deux, et même à Jérôme, puisque ça fait longtemps que tu es venu, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut y répondre, évidemment. Moi, j'ai envie de savoir. Tous les trois ou tous les quatre, même 2 minutes. Quelles sont vos petites madeleines de Proust, chacun ? Si vous en aviez, allez, un plat, un souvenir.
Le parfum des œillets.
Le parfum des œillets, quand tu étais petite.
Joli titre de roman.
Ouais, titre.
Un bon titre de roman.
Axel, un monstre qui se fait découper. Ah, c'est difficile comme
c'est
question.
Difficile. Ouais.
Pour tous les quatre, l'écriture est-elle une thérapie ?
Ouais, grave.
Oui.
Ouais.
Oui.
Totalement.
Toi aussi.
Oui, je suis d'accord.
Non.
Non. Très bien. Ah bah évidemment, la rebelle. Qu'est-ce que vous faites en premier en vous levant le matin, tous les trois ?
J'enfile mes pantoufles.
Très bien, parfait. C'est pas chez tout le monde.
Je regarde mon compte.
Je mets mes lunettes maintenant.
Ah, maintenant tu mets tes lunettes. Axel, un petit pipi ou quelque chose ?
Je prends mon petit déj.
Ok, très bien. Alors là, je vais juste rapidement faire un lien avec le prix des apparences de Delphine. Est-ce que vous êtes plus Versailles ou Paris ? Ça, c'est des références.
Ok. Paris.
Allez, Versailles ou Paris ?
Paris.
Attention, parce que c'est l'histoire à Versailles aussi.
Paris, je sais pas.
Flic ou architecte ?
Ah.
Je réponds pas.
Architecte.
Ouais, architecte aussi.
Architecte ?
Architecte.
Ok. Ouais. Alors, flic ou voyou ?
Flic.
Ah ouais ?
Ah, il se mouille pas, voyou. Les gars.
Voyouze ?
Référence à Monsieur Ray. Dylan ou Bowie ?
Dylan.
Peut-être Bowie.
Moi plutôt Goldman.
Et une dernière, vous vous sentez.
Une fusillée du regard.
Comment t'as pu comparer ? Et vous sentez plus fantaisiste ou héroïque ?
Ah, les deux.
Les deux, mon général.
Ouais. Fantaisiste.
Fantaisiste.
Ah,
elle est, ah, la maman, elle est quoi ?
Héroïque.
Héroïque. Hey,
moi, je me sens plutôt en retard. Allons-y.
Merci à tous les quatre. On peut le faire après.
en podcast.
Ça, c'est Jérôme qui chante.
www.radiocampusangers.com.
Il s'était coincé.
Un grand merci de ce moment passé ensemble, Delphine.
Merci beaucoup.
Tu es bien sûr la bienvenue, le prix des apparences, le dernier né.
Dans deux semaines.
Et vous pourrez aller taper la bise, Juvardeil, Delphine, dimanche. Vous remettrez les mots dans l'ordre et vous aurez l'information. Et puis merci pour ta première visite, Axel.
Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli.
Ouais, de nous avoir parlé en toute sincérité et intimité de ton travail. Et c'était vachement intéressant. Merci beaucoup. Jérôme.
Bonsoir.
On se voit dans 5 ans. On parlera bientôt de cette œuvre aussi, ce disque, ouais. Hommage à Dylan. Pascal, qu'est-ce qui se passe à la comédie?
Rien du tout ce week-end. Non, on va jouer à Dax. On va jouer à Dax.
Ah, super. Oui, oh, j'ai adoré Dax.
Mais oui. On a grande chance de jouer à Dax vendredi soir. Le prénom.
Mais la fin du mois, on peut commencer à réserver pour
bien
aller
sûr, pour deux hommes tout nus. Voilà.
Ah, et tous les vendredis et samedis. Voir, hein.
Ah merci, oui, et puis les cours.
Parce qu'il y a nu dedans et voilà.
Ah bah oui, moi c'était ça qui m'intéressait.
Emma, voilà. T'as des choses à dire
Emma, toi, alors t'as tourné, t'arrêtes pas de tourner toi.
Ça se prépare.
Ouais,
ça se prépare.
C'était rigolo ça.
Oui, 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 ce week-end j'étais Brigitte. Le sosie de Brigitte Macron, ça se voit pas. Regardez, quand on le voit comme
voilà.
Ça.
Comme ça, c'est pas
à côté Jean-Michel aussi, non?
Bravo.
À la semaine prochaine, tout le monde. Belle semaine à tous. Bonne soirée.
Salut.
Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.
Hop là.
L'Afterwork sur Radio Campus Angers. 103 FM, Internet, podcast, radiocampusangers.com.